Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
C'est alors qu'il faut marcher. Marcher tout seul. Il faut marcher. Marcher tout seul. C'est alors qu'il faut marcher. Marcher tout seul. Marcher. Marcher tout seul. Marcher tout seul.
Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, moi je m'entends, merci beaucoup. Claude Saint-Jean à l'appareil, c'est FAC, c'est FAK, la radio universitaire de l'Université de Sherbrooke, pour l'émission À nous le futur, et en sous-entendu très clair, À nous le beau futur, s'il vous plaît, OK? Fait qu'aujourd'hui, on va parler des Premières Nations en premier. Après ça, je vais vous parler de bienveillance, ensuite de militarisme, et puis de l'ère anthropocène, et finalement, je vais vous donner des bonnes nouvelles. Fait que, c'est-à-dire, pas toutes bonnes, mais en tout cas, pas mal. Fait que à la fin, il va être rendu à 11h50, peut-être 55. Fait que bienvenue, je suis content de vous parler. Et puis, n'est-ce pas qu'il fait un beau soleil aujourd'hui? Vous aperçu qu'il fait soleil? Oui, tant mieux. Fait que hier soir, il y avait une belle lune brillante aussi. Est-ce que vous l'avez remarqué? Et puis, ce matin, il y avait des toits et des herbes avec du frima. Et hier soir, je reviens, hier soir vers 17-18 heures, le soleil enflammait les nuages et le ciel sherbrookois de couleur, belle couleur orange. Alors, merci pour tout ça. Et puis, là, je commence la chronique Première Nation. Je vous en ai parlé d'abord dans la revue Liberté, hiver 2019, le numéro 232, en vous citant Richard Desjardins et M. Sioui. Georges E. Sioui, qui avait écrit un article aussi. D'accord? Fait que là, je passe à le Réseau québécois des groupes écologistes, qui sont des alliés aux luttes autochtones. Il faut se décoloniser et un processus de décolonisation comprend diverses actions à entreprendre. Premièrement, s'interroger. Deuxièmement, voir à la justice sociale. Troisièmement, convergence des luttes. Et puis, il faut apprendre. Il faut apprendre au sujet des identités, des cultures et des territoires. Nous avons 11 Premières Nations ici. Et puis, il faut aussi s'interroger sur le racisme systémique et ordinaire. Puis, il faut agir en conséquence, comme par exemple reconnaître les peuples autochtones et, qu'ils ont la propriété et le contrôle et l'accès à la possession de leurs informations, les connaissances, les expériences et l'histoire. Fait que je vous dis ça un petit peu vite, là, mais vous allez voir dans Internet le Réseau québécois des groupes écologistes. Vous, les chanceux qui avez accès à Internet, moi, je ne l'ai pas depuis une couple d'heures. Je n'ai pas eu le temps de corriger ça. Là. Mais je me sens bien. Je me sens moins drogué d'Internet. Fait que ça va. Et puis, je voulais vous parler aussi de Matérialité avec les peuples autochtones. C'est un livre de Pierre Lepage dont j'ai déjà parlé, mais c'est super intéressant. Et puis, c'est pourquoi je vous suggère d'écrire à l'Institut Tsakapesh, T-S-H-A-K-A-P-E-S-H, et vous allez pouvoir avoir ce livre gratuitement, « Mythes et réalités sur les peuples autochtones ». C'est écrit par Pierre Lepage. Et aujourd'hui, bien, dans ma chronique des Premières Nations, c'est la commission Vient, dont je viens de vous parler. C'est la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics. Écoute, réconciliation et progrès. La commission Vient a examiné les relations gouvernementales avec les Autochtones et elle a émis un rapport en 2019. C'est de ce dont je vous parle ce matin. Premièrement, il y a une note au lecteur. Ils disent « L'appellation Première Nation inclut les Abénakis, les Anishinabeks, en parenthèse, les Algonquins, les Atikamekw, Nehiroswisiv, les Eyu, en parenthèse, Cri, les Huron-Wendat, les Innu, les Malécites, les Mi'kmaq, les Mohawks et les Naskapis. » Je pense que les Mohawks n'aiment pas ce nom-là, ils préfèrent Iroquois. Alors, l'expression « peuple autochtone » désigne, quant à elle, Première Nation et les Inuits collectivement. Alors, je vais employer « peuple autochtone » dorénavant. Et puis, si vous voulez vous procurer ce livre, c'est www.cerp.gouvernementalcanada.ca. gouvernement.qc.ca. Fait que si vous ne comprenez pas, vous réécouterez l'émission. Elle sera disponible dès demain en balado. Et puis, il y a un numéro de téléphone, puis je l'ai essayé tout à l'heure. Je voulais demander si les gens pouvaient encore se procurer après 5 ans ce rapport-là. Et puis, imaginez-vous que le numéro de téléphone qu'ils donnent, c'est un numéro des États-Unis. T'sais, ça me parlait en espagnol, puis après ça en anglais. Fait que c'est pas pire, hein, comme communication. Alors, je voulais vous dire que dans l'annexe, là, le livre des annexes de ce rapport-là, on dit que les locuteurs en langue autochtone au Québec, les Abenaki, il n'y en a aucun. Mais il y a un professeur d'Abenaki ici à l'Université de Sherbrooke. J'ai déjà suivi un cours de lui, d'ailleurs, en Montérégie. Il y a la langue algonquine, il y a 2245 personnes qui en parlent, qui parlent l'algonquin. Les Atikamekw, il y a 6635. Les Eyu, c'est 17175. Huron-Wendat, aucun. Inu, 9850. Inuktitut, 12490. Malécite, 10 personnes. Mi'kmaq, 880 individus. Mohawk, c'est 690. Et Naskapi, 770. Ce qui fait 50 745 individus autochtones au Québec. Alors qu'ils viennent, tu sais, en 1492, lorsque Christophe Colomb est arrivé et Jacques Cartier et tout ça, les premiers Européens, finalement, quand ils sont arrivés dans les Amériques, qu'on appelle aujourd'hui, du point de vue des Premières Nations, l'île à la tortue, il y avait autant de personnes ici qu'en Europe, nous dit le livre 1491, j'en ai déjà parlé ici. Et puis, il y avait des villes aussi grandes qu'en Europe. Alors, les premiers Autochtones ont été très accueillants envers les Européens, qu'ils trouvaient d'ailleurs assez maladifs. Et il y a eu un virant de mort du destin, un virant de bord du destin. Les Autochtones qui étaient ici sont presque tous éteints. T'sais, il en reste 50 000 au Québec. Là. Fait que désolé, je suis désolé pour tout ça. Et puis j'espère que vous allez grandir, que bien des bébés s'en viennent et qu'on va apprendre vos langues. Moi, j'ai commencé à apprendre l'Iroquois un petit peu, puis l'Abenaki un peu. D'ailleurs, l'Iroquois, ça aussi, je vous l'ai déjà dit, c'est de la langue constitutionnelle que j'ai apprise. Mais j'ai aussi su qu'il y avait le matriarcat dans la culture iroquoise. Les femmes décidaient beaucoup de ce qui se passait. Pas tout, mais beaucoup. Et puis, dans la constitution iroquoise, c'est elle qui a inspiré la constitution américaine, mais ils ont laissé de côté le matriarcat. Ça ne me surprend pas. Fait que page 223 ici de ce livre-là, là, qu'est-ce que c'est que c'est ça que je voulais vous dire? Ça, c'est dit. Maintenant, la liste, les nombres de dossiers d'enquête ouverts par peuple autochtone. Chez les Abenaki, 5, Anishinaabe, 127, Atikamekw, 129, Eyu, 144. En tout cas, au total, 1047 dossiers d'enquête ouverts par la commission vient. Et puis, cette commission vient là. Je voudrais vous citer quelques aspects là, du rapport. D'abord, il y a 141 recommandations qu'ils appellent des veilles à l'action, des appels à l'action. Et on parle d'une veille citoyenne. On dit que au-delà du mécanisme de suivi formel proposé par la concrétisation des appels à l'action identifiés, peut aussi être soutenu par l'engagement citoyen. L'exemple du comité public de suivi des recommandations de la commission Charbonneau, initié par un groupe d'universitaires et de citoyens au lendemain du dépôt du rapport de la commission du même nom, est un exemple concret de cela. Année après année, le rapport public déposé par ce groupe de citoyens permet de mesurer le niveau de réalisation des recommandations. Alors, l'appel à l'action numéro 141 dit « Il faut procéder le plus rapidement possible à la traduction et la diffusion du rapport synthèse de cette commission dans toutes les langues autochtones utilisées au Québec sous forme écrite au sein des peuples autochtones et ce, en collaboration avec leurs représentants. » Fait que, à la page 11, tu sais, j'ai lu là, hier tout ça, puis j'ai noté les pages. Mais c'est pas si facile que ça, ça va pas si vite que ça, là. Page 11, un instant. À Val-d'Or, Cindy Rupert Haas, 44 ans, est portée disparue depuis le printemps 2011. C'est d'abord son histoire qui mène les journalistes de l'émission Enquête de Radio-Canada en Abitibi. Ses parents, à l'instar de nombreux autres ailleurs au Canada, déplorent le manque de diligence et de soutien des services de police dans les recherches pour trouver leur fille. Fait qu'il y a 1181 personnes autochtones disparues. Alors aussi, avant les premiers contacts avec les Européens, les peuples autochtones formaient des nations organisées aux cultures variées et adaptées à leurs différents modes de vie. Ils avaient une autonomie de pensée et d'action qui leur permettait d'assumer pour les peuples des fonctions aujourd'hui remplies par les services publics. Loin d'être désincarnée, l'organisation sociale et publique des premiers peuples trouvait sa source dans le lien particulier établi avec le territoire, mais aussi avec les nations. Au moyen d'entretien avec des représentants des nations, l'équipe de la commission, si la commission vient, est allée à la rencontre de l'histoire orale de ces peuples. Il y a eu, dès 1850, l'imposition de la souveraineté canadienne. La première moitié du 19e siècle marque un tournant décisif dans la relation entre l'État et les Premières Nations du Québec et du Canada. Au début du siècle, celles-ci sont considérées comme des alliés de la couronne britannique, tant sur le plan militaire qu'économique, grâce notamment à la guerre de 1812 et au commerce de fourrures. Les dons annuels remis aux bandes autochtones par Londres en vertu des traités de collaboration scellent la bonne entente. Les mutations de l'économie canadienne, qui se tourne vers l'industrie du bois et une agriculture à plus grande échelle, entraînent toutefois un bouleversement quant à la place des Autochtones dans le nouveau pays en devenir. Il y a un contrôle du territoire. Après l'installation des Européens dans la vallée du Saint-Laurent, ainsi qu'autour des Grands Lacs, la seconde moitié du 19e siècle est le théâtre d'une colonisation intensive. Là, je passe à la page 102. Le plus récent exercice pour mesurer la démographie, là, a notamment permis d'établir que la population québécoise totale s'élevait à 8,394,000. Et puis, le Québec compte 14,094 citoyens d'origine autochtone, soit l'équivalent de 14% de la population totale. Les principes essentiels de la réconciliation, quels sont-ils? Bien, il faut reconnaître le statut particulier des Premières Nations et ses Inuits. Et puis, il faut favoriser l'autodétermination. Il est important d'agir aussi de manière systémique et concertée. Il faut intervenir en amont, dit le livre de la commission que je vous lis, là. Et puis, il faut aussi faire des appels à l'action transversale. Par exemple, il faut reconnaître les erreurs. Nous, Européens, fils d'Européens, il faut reconnaître les erreurs que nous avons commises envers les Autochtones. Il faut poser les bases d'un espace de collaboration de nation à nation. Là, j'arrive à la page 236. Il est important d'établir un portrait clair de la situation. Par exemple, l'appel à l'action numéro 3 dit que il faut procéder en collaboration avec les autorités autochtones à l'élaboration et à l'adoption d'une loi garantissant la prise en compte des dispositions de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones dans le corpus législatif relevant des conséquences. Alors, c'est pas mal tout ce que je veux vous dire sur le rapport final vient, que j'ai le temps de vous dire. Dans une autre émission, je préciserai d'autres appels à l'action. Et puis, je vous dis qu'il faut aller au gouvernement du Québec, là, puis vous demander d'Internet, là, la commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, écoute, réconciliation et progrès. Demandez le rapport final. Alors, si moi je l'ai eu, vous pouvez l'avoir. Et c'est, mon Dieu Seigneur, c'est presque 500 pages. Puis je dirais qu'avec les annexes, ça fait environ 700 pages. Alors, c'est très important de connaître ça, de savoir ça. Fait que pourquoi que je vous parle de tout ça, mais c'est parce que, voyez-vous, je suis... Alors, rebonjour, mon nom c'est Claude Saint-Georges, vous êtes à l'écoute de À nous le futur, puis chère nouvelle génération, la musique que vous entendiez tout à l'heure, Je suis cool, c'est du 20e siècle. Alors pour vous, c'est une musique émergente, parce que le but de CFAK, c'est de vous faire entendre de la musique émergente. C'est une blague. Alors, une blague, mais vraie. Alors là, si vous avez regardé, tout le monde en parle, ce qui m'étonnerait, là, vous, nouvelle génération. Il y avait Gino Chouinard qui était là. Lui, il a écrit un livre qui s'appelle 3800 matins. C'est quelqu'un qui a fait des émissions à LCN pendant 21 ans. Fait qu'il parle de son 21 ans d'émission. Si je calcule bien, ça fait plus que 3800, ça. Mais en tout cas, fait que ce qui m'a étonné dans ce qu'il disait, c'est qu'à un moment donné, il est devenu déprimé parce qu'il disait des mauvaises nouvelles tout le temps. Et puis, ça me fait penser à moi qui, à CFLX, il y a plusieurs années, je donnais des bonnes nouvelles. Je faisais une émission sur le futur positif. Et puis, je suis tout à fait inconnu. Et CFLX, une petite radio communautaire. Puis aujourd'hui, bien, elle est à l'université en ce moment. Aujourd'hui, elle est au centre-ville. Et aujourd'hui, c'est CFAK qui est ici. Puis aussi, je suis en train de vous faire une émission sur le futur positif où je donne des bonnes nouvelles. Alors, je voudrais dire à Gino Chouinard, là, si vous êtes à l'écoute, là, qu'il existe au moins deux sites Internet de bonnes nouvelles. Good News Network, 4 bonnes nouvelles par jour et c'est gratuit. Il y en a un autre, c'est Positive News Network. Lui, il n'est pas gratuit, mais je reçois quand même un bulletin de nouvelles de leur part. Fait que pour Gino Chouinard et tous ceux qui sont un peu déprimés, là, je voudrais vous lire quelques extraits de Jacques Lecomte, qui s'appelle, le livre, c'est « La bonté humaine, altruisme, empathie et générosité ». Monsieur Lecomte écrit à la page 12 que ses recherches menées aux quatre coins du monde sont malheureusement encore peu connues du grand public. Le but de ce livre est précisément de les diffuser le plus largement possible. Une partie importante de ses recherches a été réalisée à partir des années 2000. Autrement dit, je n'aurais pas pu écrire un ouvrage aussi documenté il y a 10 ans. Bon, alors, pour autant que je ne prétends pas remplacer un déterminisme, celui de la violence et de l'égoïsme, par un autre, celui de la bonté. Même les chapitres de ce livre les plus imprégnés de la biologie, ceux qui concernent la neurobiologie et les primates, ne conduisent pas à penser que nous sommes déterminés à faire le bien. Nous sommes prédisposés, oui, prédestinés, non. La distinction est subtile, mais essentielle. Il en est de même pour les conditions familiales ou sociales. Elles peuvent faciliter ou limiter le développement de la bonté, mais elles ne le déterminent pas. Il n'y a pas de déterminisme, ni biologique, ni social, du bien ou du mal. Au final, cet ouvrage peut se lire un hymne à la liberté, car chacun de nous peut choisir de s'engager ou non dans le sens de la bonté humaine. Et moi, j'ajoute qui est à cultiver. Alors, je passe à la page 151. Vous venez de déjeuner avec un ami et vous demandez la note à la serveuse. Ça, c'est dans le cas des chroniques de la bonté ordinaire. Celle-ci vous annonce que votre repas a été déjà payé par un couple qui vient juste de sortir et qui n'a pas donné son nom. Touché par ce témoignage de générosité, vous décidez de faire la même chose pour les clients d'une autre table et cette scène n'a rien d'imaginaire. Elle a eu lieu dans un restaurant de Philadelphie. Le plus étonnant est qu'elle est produite, elle s'est produite de nombreuses fois au cours de la même journée, une épidémie de générosité en quelque sorte. Bon, alors, pourquoi ne pas connaître la joie? Au fil des années, je m'étais en quelque sorte emmuré dans l'enfer et j'avais oublié la rédemption, la possibilité d'en échapper. J'ai moi-même éprouvé à plusieurs reprises ce sentiment d'élévation en lisant certaines histoires que j'ai rapportées dans ce livre et j'imagine aisément qu'il doit en être de même pour certains de mes lecteurs. Maintenant, à la page 229, ça, je pense, ici aux artistes pour la paix. Le monsieur écrit qu'il y a des cultures de paix sur toute la Terre. Intéressons-nous maintenant à des peuples qui ont une longue tradition de non-violence. Il dit un peu plus loin que les Iroquois, pionniers de la paix démocratique. La résolution des conflits a même parfois dû prendre une tournure clairement politique, comme le montre une expérience particulièrement originale mise en œuvre pendant plus de 3 siècles, de 1450 à 1777 par des Indiens d'Amérique du Nord, la Ligue des Iroquois, qui a rassemblé 5 puis 6 nations. Avant la Ligue, les conflits violents étaient communs parmi ces nations, et elle a été fondée avant l'arrivée des Européens. La Ligue a permis d'éliminer la guerre entre ses membres. Croyant en la fraternité humaine, les Iroquois ont codifié leurs principes dans la Grande Loi de la paix, document qui comporte la politique, les procédures, la philosophie et les mécanismes de modification de la Ligue. La Grande Loi est parvenue aux chercheurs contemporains par des générations d'historiens oraux amérindiens. La Ligue iroquoise comportait un organisme central, le Grand Conseil. Et puis, comme le fait remarquer Neta Crawford, ces six nations amérindiennes avaient tendance, parce qu'elles étaient des démocraties, à utiliser la négociation et la consultation pour régler les conflits. Je tourne la page, là, tu sais, puis là, je parle parce que silence radio, c'est pas conseillé, n'est-ce pas? Fait que pendant que je tourne, je parle pas tout le temps. Donc, il y a trois mythes persistants concernant la paix ou la violence dans les médias. Elle ne fait que refléter la violence dans le monde réel. Elle répond à une demande massive de la population et elle permet à l'individu de libérer sa violence interne. Le premier mythe, la violence dans les médias, reflète la violence dans le monde réel. Des responsables de l'industrie audiovisuelle martèlent des propos selon lesquels la télévision ne fait que tendre un miroir à la société sans l'influencer négativement. Il y a là un double langage. La violence télévisuelle exagère immensément la violence dans le monde réel. Par exemple, aux États-Unis, un délit sur deux montré dans les journaux télévisés est un meurtre, alors que ce n'est le cas que de un délit sur 250 dans la vie réelle. Fait qu'évidemment, je ne peux pas vous lire tout ça, là, mais j'espère vous convaincre d'aller trouver le livre de Jacques Lecomte, L-E-C-O-M-T-E, qui s'appelle « La bonté humaine ». Et puis, deux dernières petites pages. Souhaitons que ces croyances erronées du millénaire passé soient rapidement remplacées par des convictions plus solides que moi j'appelle l'opti-réalisme, dit l'auteur. Nous sommes donc littéralement imprégnés de cette croyance populaire en la méchanceté et en l'égoïsme biologiquement inscrit dans la nature humaine. Un matraquage systématique interdit de penser différemment. C'est évidemment le à dessein que je viens d'écrire, croyance populaire, plutôt que connaissance scientifique. Car comme le montre l'ouvrage que vous avez entre les mains, c'est essentiellement sur la base d'informations partielles ou erronées, voire carrément mensongères, que de nombreux auteurs ont affirmé que l'être humain possède une structure mentale fondamentalement égoïste et violente. Des experts autoproclamés ont qualifié de scientifiques des affirmations qui n'étaient que le fruit de leur fertile imagination et de leur idéologie personnelle. Là, je passe à un autre livre de cet auteur, M. Lecomte. Le titre, c'était un beau petit titre, là, c'est « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez ». Alors, page 10-11. Moi, je suis déjà rendu à 12. En tout cas, fait qu'il y a trois sources complémentaires d'inspiration qui forme le socle conceptuel de cet ouvrage. Et d'ailleurs, juste avant, il dit que l'ONU, il la trouve très utile. Il croit beaucoup en l'ONU, qui ne peut pas régler tous les problèmes de la planète, mais elle est très utile au niveau institutionnel. Donc, c'est la psychologie positive qui est une source de complémentaire d'inspiration, dit l'auteur, qui étudie les conditions et processus qui contribuent à l'épanouissement ou au fonctionnement optimal des individus, des groupes et des institutions. Ça, à l'université, vous entendrez parler de ça. Le convivialisme, c'est une nouvelle philosophie politique qui considère qu'une politique légitime devrait reposer sur les quatre principes de communauté, de commune humanité, de commune socialité, d'individuation et d'opposition maîtrisée. Finalement, la troisième source d'inspiration, c'est une vision optimiste de l'être humain selon laquelle il existe en toute personne une aptitude à la bonté qui peut s'épanouir ou s'étioler en fonction de ses choix personnels et de son milieu social. Certaines conditions peuvent faire émerger le meilleur de l'être humain, d'autres le pire. Or, pour faire émerger le meilleur, la confiance et l'espérance sont indispensables. Ce dont le monde a le plus grand besoin aujourd'hui, c'est de messages d'espoir réalistes qui nous montrent qu'un monde meilleur est possible et que chacun de nous peut y contribuer. Il nous faut passer du pessimisme désespérant à l'opti-réalisme inspirant. Être opti-réaliste, c'est plus qu'une manière individuelle de considérer l'existence. Cela devient une exigence éthique pour l'humanité. Là, je passe à une autre page. quand je prépare l'émission, c'est assez facile, tu sais, dans le salon, là. Mais ici, il faut que je tourne les pages, c'est pas évident. Donc, à l'item de la fin, il dit qu'il y a un objectif zéro fin pour 2030. Ici, j'ai une petite contradiction. Moi, j'ai un nouveau livre qui la prévoit pour 2050. Mais en même temps, je sais qu'à Gaza, il y a des gens affamés, là. Le livre a été écrit avant la guerre de Gaza, là. Et puis, finalement, c'est peut-être pas la guerre de Gaza, c'est la guerre contre Gaza. Fait que c'est bien sûr qu'il y a des gens affamés, mais j'ai appris aussi hier en lisant M. Dufumier, c'est un agronome, qui disait que, tu sais, 2 milliards d'humains ne mangent pas à leur faim. Sur le 2 milliards, il y en a 800 millions, que c'est vraiment grave la situation. Mais, tu sais, 2 sur 8, parce qu'on est 8 milliards, c'est finalement 25 %. Donc, en gros, c'est 75 % qui mangent bien, qui mangent à leur faim. Moi, je trouve ça positif parce que c'était 60 % en 1985. Ça monte et puis je pense qu'elle va continuer à monter. Et je le souhaite. Donc, 50 raisons d'être optimiste, là, à la fin du livre, c'est par exemple « La faim peut disparaître de notre planète en 2030 si les améliorations actuelles se poursuivent. » Plus d'un milliard de personnes ont échappé à l'extrême pauvreté depuis 1990. Le nombre d'enfants non scolarisés a été divisé par 2 en 20 ans. Et l'indice de développement humain a progressé dans toutes les régions du monde entre 1990 et 2014. La majorité des États dans le monde sont des démocraties. Ce n'était le cas que de 5 % des États il y a 2 siècles. L'acidité dans l'atmosphère est presque revenue au niveau qu'il était en 1930, quand a commencé la pollution industrielle. Toutefois, comme j'ai déjà dit dans d'autres émissions, 9 personnes sur 10 respirent un air impropre à la consommation. C'est quelque chose dont il faut s'occuper. La superficie des zones naturelles protégées dans le monde double tous les 10 ans depuis un siècle. Donc, essayez de trouver ce livre-là. C'est « Le monde va beaucoup mieux que vous ne le croyez ». C'est de Jacques Lecomte. Je vous reviens. Rebonjour, vous êtes à Nous le futur et c'est Claude à l'appareil. Fait que, au micro. Fait que, je vous ai parlé souvent de l'ingénieur industriel Seymo Melman, quelqu'un qui a écrit beaucoup sur l'état du militarisme aux États-Unis, disant que c'est la plus grande industrie américaine. L'économie américaine est à plus de 51 % militaire. Et puis, il critiquait ça. Il disait qu'on met trop d'argent dans la défense, dans le militarisme, de sorte que cet argent-là ne va pas dans la société civile et de sorte que la société est en détérioration. Le terme anglais, c'était depletion. Fait qu'il avait écrit le livre « The Depleted Society » à peu près 1977, après avoir écrit son livre en 1965 « The Peace Race ». Quel beau livre, quel beau titre. Et puis, finalement, tu sais, à force de dire ça, que ça fait à peu près 60 ans de ça, là, j'ai vu un reportage à Radio-Canada la semaine dernière. Le titre, c'était, croyez-le ou non, « Route, pont, infrastructure, 2 points, l'Amérique qui tombe en ruine ». Et la conclusion du reportage, c'était « Il faut rénover le pays de fond en comble ». Alors voilà, c'est un scandale. M. Melman avait raison, on ne l'a pas écouté. On a laissé faire les choses et ça s'est détérioré au point tel que tout le pays, États-Unis, est à rénover. Puis ils vont dire qu'il n'y a pas d'argent pour le faire. Là. Mais c'est dans l'évasion fiscale qu'on peut trouver l'argent, puis aussi d'en mettre moins d'argent dans le militarisme. Fait que je vais vous lire la semaine prochaine quelques extraits de « Let's Rebuild America ». C'est des syndicalistes machinistes qui se sont inspirés de Seymo Melman et de d'autres personnes, là, pour proposer la conversion de l'industrie militaire à des fins civiles. Alors, à un moment donné, cette semaine, vers 4 heures du matin, je me réveille, puis j'ai pensé pendant à peu près 3 heures. Après ça, je me suis rendormi, heureusement. Fait que je faisais des comparaisons entre l'Holocène et l'Anthropocène. Fait que nous sommes, de toute apparence, dans l'Anthropocène, là. C'est une ère nouvelle caractérisée par le climat instable, surtout. Fait qu'il y a eu le lancement du Climatoscope récemment. C'est une revue de l'Université de Sherbrooke très bonne. Ça parlait des limites de la planète. Et puis, je suis allé, puis il y avait une conférence d'une des autrices et elle écrivait sur l'Anthropocène. C'est que scientifiquement, les gens se demandent si vraiment nous sommes dans l'Anthropocène. parce qu'on ne peut pas trop mesurer dans les sols ou dans les pierres des traces pour le moment. Fait que, tu sais, c'est une question scientifique. Bon, mais en tout cas, fait que moi, je réfléchis à comparaison entre Holocène et Anthropocène. Holocène, c'est une période de plusieurs milliers d'années où le climat était stable. Donc, la différence entre l'Holocène et l'Anthropocène, c'est le climat qui est stable ou non. Mais il y a des points communs entre les deux. C'est le pétrole. Il est là dans les deux. Et puis les guerres, elles sont là dans les deux aires. Mais dans l'Holocène, les guerres, c'est entre les humains. Et dans l'Anthropocène, la guerre, c'est entre les humains aussi. Mais on ajoute la guerre contre la nature et on ajoute souvent la guerre contre soi-même. Dans le côté positif, il y a de la beauté artistique dans l'Holocène que nous pouvons importer dans notre ère l'Anthropocène parce que nous avons de la mémoire. Alors, c'est pour ça que de plus en plus, je vais vous faire jouer des musiques que je vais obtenir, là, comme exemple Bleu Danube. Et j'ai déjà ici Claude Debussy, Clair de Lune, dans ma palette informatique à moi, reliée à mon émission. Et puis, dans l'Holocène, là, ça, c'est à peu près, on va dire que c'était vers, ça l'a fini vers 1980, on va dire, en gros, avec les climats qui ont beaucoup changé. Buckminster Fuller avait fait un plan en 1927 de recherche et de pratique pour arriver au succès de l'humanité dans 50 ans. Ça n'a pas marché. Il a réussi à prouver qu'on était capable de se donner le succès de l'humanité, c'est-à-dire que ça veut dire une belle qualité de vie pour tout le monde, pacifiquement et écologiquement. Il a démontré en 1980 que c'était facile, c'était possible et qu'on pouvait, dans un programme de 10 ans, arriver à le faire, mais on ne l'a pas fait. Il y a beaucoup d'ignorance et il y a beaucoup de questions linguistiques parce que c'est écrit en anglais seulement. Et là, je vous ai parlé de Peace Race en 1965 et il y a les Artistes pour la paix qui sont québécois. C'est parti en 1985 et en 1984, il y a Willis Harman qui a écrit dans le livre « Créativité transcendante, la paix globale est possible et souhaitable ». Fait que la détérioration a commencé à la fin de l'Holocène. Et puis, dans l'Anthropocène, c'est pas tout qui va mal. Comme je disais, on peut importer le beau passé dans le beau présent et pour aider à construire un beau futur. Puis, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans l'Anthropocène qui est positif? Je me suis fait une petite liste. Peut-être que vous pouvez vous faire votre liste à vous aussi, là. Mais c'est parler du futur positif. Moi, j'en parle à la radio. C'est de réformer la démocratie. Par exemple, plus de décentralisation, utiliser le tirage au sort, plus de d'écriture citoyenne de la Constitution, l'initiative populaire. Et là, je n'arrive pas à lire mon dernier mot. Peut-être que ça va venir dans quelques instants. Fait que la réforme de la démocratie au Québec, c'est André Larocque et Roméo Bouchard qui sont les principaux leaders, mais il y a aussi des plus jeunes qui le font. Il y a aussi l'Institut des sciences noétiques qui étudie scientifiquement la conscience. Puis, comme ère post-anthropocène possible, il y a la symbiocène, dont je vous ai parlé dans d'autres émissions l'année passée. Là. Ça vient du livre de Glenn Albrecht, « Les émotions de la Terre ». Et puis, des bonnes nouvelles. Moi, je donne des bonnes nouvelles. Et, comme je vous ai dit, ça vient de Good News Network. Et puis, il faut refaire la société. Ça prend de l'argent, ça peut venir de l'évasion fiscale rapatriée et de la démilitarisation. Ça, c'est une idée assez nouvelle. Et puis, la promotion de la santé, c'est une idée nouvelle, parce qu'avant, on voulait juste guérir la maladie. Maintenant, on commence à promouvoir la santé. La question de la biorégion, c'est relativement nouveau, à peu près depuis 1970. Mais au Québec, avec Alain Deneau, ça commence à se reparler avec son livre nouveau « Faire que ». Et puis, la question du bonheur individuel, ça se parle aussi. Alors ça, c'est du nouveau dans l'Anthropocène. Maintenant, je vous parle de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. C'est grâce à un article dans le journal Montréal, le samedi, le 12 octobre, de Laure Waridel, que j'ai été... Ben, je savais ça, là, parce que moi, je viens de l'Abitibi, là, que Rouyn-Noranda, ça pollue énormément d'arsenic, tu sais. Et puis, Laure Waridel a écrit un article en disant que, avec d'autres, j'ai décidé de répondre à l'appel de l'aide lancée par Mère au front de Rouyn-Noranda. Elles n'en peuvent plus de dénoncer la fonderie Horn qui crache dans l'air un cocktail de poison avec l'autorisation du gouvernement. Ce qui est surprenant et ce qui est scandalisant, c'est l'autorisation du gouvernement. Le gouvernement les laisse faire. Là. pas à 100%. Le gouvernement veut qu'elle diminue beaucoup le taux d'arsenic dans l'air en 2027. Mais l'usine menace de fermer, tu sais. Vous devez nous obliger à faire une impropre, alors on va fermer. Fait que l'exemple de l'arsenic est probant. 98% de tout l'arsenic émis dans l'air au Québec et dans le ciel de Rouyn-Noranda. Alors, il y a eu cette manifestation la semaine dimanche dernier à Rouyn, des maires contre maires au front, demandant à Horn d'enlever l'arsenic dans l'air à Rouyn. Et puis, si vous allez voir la page Facebook de les maires au front, vous allez voir qu'une sorte de rapport, tu sais. Fait que là, je vous parle de ICANN. ICANN, c'est International Campaign Against Nuclear Arms. Donc, vous avez Antonio Guterres qui félicite le groupe antinucléaire Neon Idankyo, qui a eu le prix Nobel de la paix. Moi, je me souviens que ICANN lui-même, cet organisme-là, a eu le prix Nobel de la paix en 2017. Et je ne sais pas quelle date, mais Linus Pauling a eu le prix Nobel de la paix aussi. C'est un scientifique qui a eu deux prix Nobel de la paix parce qu'il l'a eu en médecine et parce qu'il a fait beaucoup de découvertes concernant la vitamine C. Et il a inventé une médecine qui s'appelle la médecine orthomoléculaire, plus précise que la médecine normale. Alors, je vous annonce qu'il existe un traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Bon, je ne vous l'annonce pas parce que je vous en ai déjà parlé ici. Avec les artistes pour la paix au conseil municipal, on a demandé que la ville soutienne le traité sur l'interdiction des armes nucléaires par une signature. Elle ne l'a pas fait encore. Elle réfléchit, elle pense, c'est bien. Pense, ma ville, pense. Fait que il y a un paquet de pays qui ont endossé ce traité-là. Et puis, selon un sondage... Si vous allez voir le site Internet de ICANN, I-C-A-N, là, il y a un sondage qui dit que la majorité de la population veut le désarmement des armes nucléaires, veut arrêter d'envoyer de l'argent là-dedans. Et puis, faudrait que le Canada fasse le désarmement et ne reçoive plus d'armes nucléaires des États-Unis. Alors, c'est le sondage NANOS, NANOS, très important. Fait qu'on aura du où, là? Bien, c'est le temps des nouvelles. Fait que les nouvelles, j'ai fait une petite réflexion au sujet des nouvelles aussi. Fait qu'il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, il y en a qui sont des critiques. Alors, c'est correct de faire des critiques. Faut pas juste des bonnes. Il y en a qui parlent de la détérioration. Ça nous dit qu'il faut réparer. Il y en a sur la prévention, c'est important de prévenir, sur la responsabilisation, c'est pour nous responsabiliser, et sur la réparation nécessaire. Ça, c'est les titres de nouvelles que j'ai vues. Il y en a sûrement d'autres auxquels vous pouvez penser et que la littérature nous informe, là. Alors, disons qu'à propos de la révolution active, de la gestion de la maladie et de la promotion de la santé, c'est un livre de Jean-Pierre Després, très important. Et dans ce livre-là, il parle de VITAM. C'est un organisme québécois qui donne de l'information sur la promotion de la santé. Alors, ils ont une lettre de nouvelles à laquelle vous pouvez vous abonner. Puis vous savez que vous recevrez, comme moi, des nouvelles sur la santé. Et je vous en lis quelques-unes. De ce pas. Donc, ils disent, vous connaissez une infirmière ou un infirmier, on veut l'écouter. Fait que, tu sais, lisez ça, là. Ce projet vise à suivre l'évolution de l'expérience de travail du personnel infirmier. Deuxièmement, il y a toute une section sur le vieillissement en santé qui est au cœur de leur mission. Puis, il y a une étude sur la consommation de la viande et du diabète que fait M. Jean-Pierre Després. Et également, comme événement, le 17 octobre, On demande comment les personnes âgées voient-elles et vivent-elles la participation sociale. C'est un regard croisé sur l'expérience des baby boomers. Et puis, on se demande, le 25 octobre prochain, là, on se demandera quelles sont les perspectives pour favoriser la prise de décisions partagées auprès des femmes ayant peu d'accès à des services sociaux de santé. Alors là, je sors ma chemise. Tu sais, chemise en papier, en carton, là. Il y a un article de Vitam aussi, c'est le vieillissement en santé qui est au cœur de notre mission. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, mais il y a un article là-dessus. T'sais. Moi, j'ai cliqué, là, puis j'ai imprimé, parce que je peux encore imprimer. Il y a Promo Santé qui existe, qui parle de la plateforme Logement Ensemble pour l'équité en matière de logement. Alors ça, en plus de l'alimentation qui manque, là, il y a des logements qui manquent, il faut s'en occuper. Il y a des liens, une étude sur les logements et la santé. Pour ça, vous allez voir Promo Santé. C'est différent de Vitam, V-I-T-A-M, mais ça concerne aussi la promotion de la santé. Ce site-là est plus français. R-E-F-I-P-S. Là, je touche un petit peu. Je reviens. Je vais vous faire entendre une petite musique et je vous reviens. De retour à Nous le futur avec Claude Saint-Jean. Je continue les nouvelles. Nature Québec, je reçois ça, puis vous pouvez aussi vous abonner à ça. Là. Ils disent que il y a eu des manifestations récemment pour la suite du monde. Alors, ils disent qu'il y a une vidéo qui récapitule. Et puis qu'il y a une plateforme pour faire du bénévolat qui s'appelle Volon, V-O-L-O-N, T majuscule E-R-R-E. Et puis, il y a un article aussi sur l'autodéfense contre la propagande pétrolière. Nous avons très peur qu'on réalise quels sont les principales responsables de la crise climatique et les premières émettrices de GES au Canada. Nous, c'est les pétrolières. Alors, elles font de la propagande et Nature Québec vous montre des trucs pour vous autodéfendre. Et puis, pour adapter les écoles aux conséquences des changements climatiques, Nature Québec et ses partenaires verdissent les cours de certaines écoles. Vous pouvez lire ce propos-là également. Ça prend une réforme de la forêt, parce qu'on se rappelle du film de Richard Desjardins, là, l'éveil boréal, et puis ça prend une nouvelle éveil boréal. Alors, il faut réformer la forêt pour qu'elle continue à pousser sans se faire toujours couper. Alors, allez voir Nature Québec. Puis, il y a Maxime Dubé qui est membre de... C'est groupe OGM, là, comment ça s'appelle ça? OGM Québec, là. Vigilance OGM, OK? Fait que là, ils nous préviennent qu'il y a une nouvelle sorte de pomme OGM qui s'en vient. Et puis, ils vous donnent de l'information pour vous opposer à ça, là, parce que la résistance s'organise. Car nous sommes fiers d'être sans OGM, dit Vigilance OGM, avec Maxime Dubé comme porte-parole. Dans Positive News, que je reçois, n'est-ce pas? Je considère mon handicap comme un positif. C'est-à-dire qu'il y a des femmes aveugles qui, en Inde, suivent une formation pour les aider à détecter de façon précoce les cancers du sein. Alors, elles ont, tu sais, les femmes aveugles ont beaucoup de pouvoir par le toucher et elles peuvent réussir à détecter des cancers du sein avant que la médecine le trouve. Donc, c'est une bonne nouvelle qui vient de Positive News. Les aveugles détectent le cancer du sein à l'aide d'une formation spéciale. Et puis, il y a un consensus québécois en environnement, nous dit Viro-Vert, car Viro-Vert se prépare aux prochaines élections fédérales, je pense. Et l'IRIS, l'Institut de recherche socio-économique, nous informe. Là aussi, c'est un bulletin de nouvelles auquel vous pouvez vous abonner. C'est les paradis fiscaux. Il y a une filière des énergies renouvelables ici au Québec. Et puis, il y a des paradis fiscaux qui s'installent là-dedans. Alors, c'est ça aussi, il faut arrêter ça le plus vite possible, s'il vous plaît. Et il existe, c'est le collectif Antigone, qui est une partie du regroupement Vigilance Énergie Québec, là, RVHQ, qui commence une campagne stratégique pour répondre à l'urgence climatique. Alors, ils veulent fermer le pipeline Enbridge 9B. Alors, vous pouvez aller voir ça, c'est collectif Antigone, là. Fermer le pipeline Enbridge 9B. Et puis, je vais finir avec ça, cette émission-là. Je vous souhaite de continuer à jouir de cette belle journée. Moi, je vois des belles couleurs d'arbres en face de moi, là. C'est jaune, orange, rouge. Regardez les couleurs des arbres, ça va vous contribuer à vous émerveiller, puis à augmenter votre santé, votre système immunitaire. Marchez dehors au moins un petit peu à chaque jour, parce que la lumière du soleil enrichit la santé. C'est prouvé. Alors, merci, ici Claude Saint-Georges pour Anneau le futur. Portez-vous bien. Tu m'aimes-tu, ça? On a essayé d'avoir ça, puis on ne peut plus l'avoir, la musique de Richard Desjardins. C'est pas grave. À la semaine prochaine, on va parler de militarisme encore, de démilitarisation, mais aussi de la santé. Ciao.